Ah, maîtresiste, bonsoir. Tu m'entends bien, Roger, non, là?
Oui, impeccable. Comme
allez, nous allons nous retrouver, Roger et Denis, pour une nouvelle émission de 13 Passions, avec un invité de marque ce soir, monsieur le président de la Fédération française de rugby à 13. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Denis. Bonsoir, Elia. Bonsoir, les auditeurs. Alors, pour certains qui sont un peu dépassés par l'âge, le mois d'octobre contient 31 jours, voilà, le petit message. Et nous allons avoir pendant, allez, une bonne partie de l'émission.
Vous avez de l'écho.
Nous allons avoir le président de la Fédération française de rugby à 13. Bonjour Denis.
Bonjour Roger, et bonjour à toutes et à tous. En effet, très heureux de vous retrouver. Bah, salut Elian, évidemment. Et bon, ben, on va, en espérant qu'on va avoir une belle émission ce soir avec, pour la première fois sur cette antenne, Monsieur Dominique Balou.
Alors, est-ce que nous avons en ligne Monsieur Balou ?
Non, je l'appelle, là, je l'appelle.
D'accord. Alors, on rappellera, on va rappeler les deux échecs des clubs français à 13, hein, et les drones catalans et Toulouse Olympique, hein, c'est vrai, on n'a pas trop, il y a, c'est vrai, la défaite logique, hein, défaite logique, hein, mais bon, on verra l'année prochaine. Et puis bon, en fin d'émission, on parlera de quelques informations internationales. Alors, par contre, dimanche, dans le cadre de l'émission de notre ami Elian Cazot, nous on aime l'accordéon, vous pourrez gagner 10 plaques de 3 cartons pour le loto de Valérien Aragon en Cabarrès, 10 plaques de 3 cartons avec des bons d'achat, hein, que ce soit autant carton plein et kin, des bons d'achat assez importants. Je pense que dimanche, il vous dira tout sur les kines. Voilà. Alors,
vous avez, monsieur le président.
Nous avons le président. Monsieur le président, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur le président.
Bonjour.
Alors, vous interroger, vous avez Denis Arcas et Roger Bouchou. Et nous allons commencer d'abord, président, pouvez-vous nous donner des nouvelles de votre prédécesseur? Comment va-t-il?
Alors, bonjour à tout le monde, bonsoir plutôt à tout le monde. Écoutez, Luc Lacoste va mieux, puisque l'enjeu pour lui était de prendre du recul avec toutes ses activités pour retrouver le chemin d'une santé raisonnable. Donc c'est ce qu'il a fait, et aujourd'hui, il se porte mieux. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose.
Alors, président, vous allez assurer la succession. Alors, la succession dans la continuité, où est-ce que vous allez apporter des modifications au programme que vous réservez au rugby à 13 français?
Alors, évidemment, dans un premier temps et avant l'Assemblée générale du 9 septembre dernier, j'ai assumé en qualité de secrétaire général l'intérim de la fonction, c'est-à-dire que j'avais la double casquette en termes de responsabilité évidemment pénale, et puis aussi d'assurer la continuité de notre de la mise en œuvre de notre projet politique fédéral. Donc cette fonction de président m'a été confiée le 9 septembre, et donc depuis, je me suis évertué à non seulement renforcer les lignes que nous avions déjà identifiées et commencé à travailler, mais aussi structurer avec mes co-élus du comité directeur ce qu'il était nécessaire de mettre en place absolument pour cette quatrième année de mandat, pour que le comité directeur de la fédération puisse assumer un bilan complet de ces quatre années de mandat, de ce premier mandat. Je dis premier mandat parce que Très certainement, le moment viendra de faire une proposition pour un second mandat, car évidemment, l'ambition portée au cours de ce premier mandat, qui se résumait en quatre axes fondamentaux, mais je ne vais pas y revenir dessus, je sais que Luc Lacoste les avait détaillés en son temps, ces axes de notre projet politique, eh bien, consistaient dans un premier temps à restructurer la fédération pour leur donner vie, et maintenant il faut dynamiser nos ligues, donc bien mettre en place tout ce qui va servir au rugby à 13 de demain. Alors, servir au rugby à 13 de demain, ça se décline évidemment en termes de visibilité, en termes de d'image, en termes de structuration du haut niveau qui doit être évidemment la vitrine de notre rugby à 13. Et donc tout cela impose des négociations avec des partenaires extérieurs qui dans la production télévisuelle, qui dans la commercialisation de sponsoring et de droits, qui dans la communication et l'événementiel, pour donner du retentissement à notre rugby à 13.
Alors, Denis Arcas a vous poser la deuxième question. Denis.
Oui, bon, monsieur le Président, est-ce que vous pourriez nous dire la structuration de votre équipe, puisque je pense que, est-ce que vous avez nommé un vice-président, enfin, qui assume le secrétariat à votre place, etc.
Oui, alors, évidemment, j'avais posé une condition à ma candidature à la présidence, et il faut bien dire que c'est plutôt le secrétaire général qui a été élu président pour cette quatrième année, plutôt que la personne de Dominique Balou. Même si j'ai peut-être une modestie de considérer que j'y suis quand même un peu pour quelque chose, mais c'est quand même dans la continuité, donc le secrétaire général qui a été élu président, pouvoir m'appuyer sur un secrétariat général reconstitué et apte à consacrer le temps nécessaire aux affaires du rugby à 13. C'est donc ce qui a été fait, et Jean-Pierre Morata, qui est un trésiste de longue date, qui connaît de l'intérieur le rugby à 13, a accepté le poste de secrétaire général, accompagné auprès de lui de Frédéric Baldi, qui va plutôt, lui, s'occuper de tout ce qui est compétition. Jean-Pierre Morata va s'occuper, va prendre en main, a pris en main d'ailleurs, tout l'aspect réglementaire, juridique, et puis la gestion du personnel, et Frédéric Baldi s'occupe, lui, plutôt des compétitions. Voilà. Donc ça, c'est une structuration du secrétariat général autour du président. Et puis, notre ami Patrick Pedrazani, qui était déjà vice-président, reste vice-président, évidemment, en charge plus particulièrement du dossier très lourd de l'arbitrage des délégués que nous avons réunis dans une même commission. Et puis ensuite, nous avons évidemment les commissions traditionnelles, comme la commission des jeunes, qui est présidée par Jean-Marc Ayel, la commission des féminines, qui est présidée par Jean-Marc Crespo, la commission de la réglementation et des affaires juridiques, qui est présidée par Alexandra Bouloc, qui est une nouvelle élue au comité directeur depuis le mois de juin. Voilà, je ne vais pas toutes les détailler, mais je dois vous dire, l'organigramme de la fédération est publié sur le site officiel de la Fédération française de rugby à 13, et donc chacun peut aller y découvrir son organisation. Il y a une nouveauté dans cet organigramme sous ma présidence, c'est que j'ai souhaité ouvrir la porte à des disciplines associées qui ont peu ou prou un lien avec le rugby à 13. La première, c'est la Fédération nationale de touch rugby, dont la source est le rugby à 13. Ça arrive d'Australie. C'est une déclinaison du rugby à 13 à toucher, avec des règles et une intensité plus élevée. Cette fédération nous a fait un appel du pied en disant, voilà, cela aurait du sens que nous soyons associés au sein de la Fédération de rugby à 13. Donc nous avons ouvert la porte et nous sommes en train de travailler à une modification des statuts qui seront votés au mois de décembre au cours de l'Assemblée générale financière, de façon à pouvoir avoir cette discipline particulière au sein du rugby à 13. De la même façon, notre ami Jacques Acambray, peut-être que ce nom parlera à nombre d'auditeurs, c'est un ancien athlète ayant fait plusieurs Jeux Olympiques, plusieurs titres de champion de France et d'Europe.
Un lanceur de marteau.
Un lanceur de marteau, exactement, qui a introduit en France le football américain il y a une quinzaine d'années, avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. Et Jacques Acambray s'est rapproché lui aussi de moi, et nous avons au cours de l'été imaginé comment nous pourrions, là aussi, accueillir au sein de la Fédération de rugby à 13, eh bien, la Fédération nationale de football australien qu'il a commencé à implanter en France. Donc vous voyez que ces deux sports que nous allons accoler au rugby à 13 vont pas dénaturer évidemment le rugby à 13, mais en ayant la double licence, vont d'abord arithmétiquement gonfler le nombre de licenciés de la fédération, vont représenter pour l'un et l'autre des pratiques diversifiées du rugby à 13, je pense notamment au touch, mais aussi pour le football australien, avoir dans une saison où le rugby à 13 ne joue pas forcément, dans des coins géographiques où le rugby à 13 n'est pas forcément présent, eh bien, vont représenter là aussi des territoires sur lesquels, dorénavant, le rugby à 13 existera en termes de pénétration du monde scolaire, en termes d'événements communs, en termes d'animation et puis contact avec les collectivités dans lesquelles ces fédérations existent déjà. Voilà, donc ça c'est une particularité que nous avons introduite, en plus de deux comités de pilotage distincts qui figurent dans cet organigramme, qui sont présidés par des personnes extérieures à la Fédération de rugby à 13, qui aiment le rugby à 13, qui fréquemment sont des spectateurs du rugby à 13, mais qui ont des compétences que nous n'avions pas à l'intérieur, et bien pour d'une part ouvrir le chemin de la professionnalisation du rugby à 13, je pense que nous allons en dire deux mots tout à l'heure, et puis l'autre c'est de travailler à la structuration du sponsoring et du partenariat. Voilà, vous voyez, donc il y a à la fois, pour répondre à votre question, de la tradition, de la continuité dans les affaires communes du rugby à 13, et puis des ouvertures et une ambition nouvelle affichée.
Président, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a des clubs comme Lyon qui ont redémarré, Nice, Toulon. Est-ce que ça, c'est pas l'avenir du rugby à 13? C'est des grandes équipes, parce que des équipes en élite 1, bon, c'est pas suffisant. Il en faudrait au moins 12 ou 14. Qu'en est-il de votre projet là-dessus?
Alors, il y a vraiment une problématique particulière sur le haut niveau du rugby à 13 français. Elle est de plusieurs natures, cette problématique. Elle est d'abord de la nature du jeu lui-même. Nous y reviendrons tout à l'heure. Elle est évidemment de nature de la représentation nationale du rugby à 13. Comment est dessinée la carte de France du rugby à 13. Et elle est enfin dans la capacité qu'ont les collectivités territoriales à accompagner l'évolution de ce rugby à 13. Il est bien évident qu'entre une ville de 1 000 habitants ou 10 000 habitants, qui est à l'heure actuelle, le théâtre habituel de l'évolution du rugby à 13, et une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, il peut y avoir économiquement des enjeux, effectivement, qui sont d'avenir pour le rugby à 13. Le tout est de structurer cette offre nouvelle. Alors oui, Toulon a une équipe, oui, Nice a une équipe, mais il est difficile, ex nihilo, de créer une dynamique et de et de créer une entité si nous n'avons pas des revenus à injecter directement sur place pour créer ces structures. Donc, il y a dans le temps une obligation d'avoir à la fois une méthode et puis une progressivité d'installation. Lyon, le problème est un petit peu différent. Il y a toujours eu du rugby à 13 à Lyon, en continuité, avec des grandes équipes que l'on a connues par le passé, et puis un rugby à 13 qui s'est un petit peu réduit, mais nonobstant, il y a une grosse activité de rugby à 13 à Lyon, avec une place forte en termes de formation. Pour autant, cette formation ne débouche pas, parce que, vous voyez, le problème est très concret, il n'y a pas d'espace pour accueillir le rugby à 13 de haut niveau à Lyon. Il y avait le stade de Villeurbanne, eh bien, la mairie de Villeurbanne l'a réquisitionné pour faire une extension de la piscine municipale. Nous avions, avec Luc Lacoste et puis les dirigeants de la Ligue, du comité et des clubs du Lyonnais, rencontré les élus de Lyon Métropole, du Grand Lyon exactement, pour négocier l'attribution au rugby à 13 de l'ancien stade du Loup. Et nous étions en bonne voie jusqu'à ce que les élus nous annoncent, eh bien, finalement, nous allons en faire un centre d'accueil pour migrants, parce que nous avons cette obligation immédiate de construire. Donc, problème à Lyon est particulier. Il y aurait de quoi faire. Il y a une volonté politique. Il y a des dirigeants sur Lyon. Il y a une formation qui pourrait déboucher sur du haut niveau assez rapidement. Mais on n'a pas de terrain pour accueillir ce haut niveau. Donc nous y travaillons. Vous voyez que le problème est un peu différent. Il y a évidemment des enjeux sur des grosses villes comme Paris, comme Bordeaux, qui devraient pouvoir retrouver du rugby à 13. Voilà, donc c'est, si vous voulez, aussi
président.
De dirigeant hein, qui fait aussi
cette limitation. Président, président. Honnêtement, est-ce qu'il n'est pas difficile de croire qu'une grande ville comme Lyon, avec Villeurbanne, n'a pas une pelouse pour accueillir le rugby à 13 pour commencer en
général? Non, aussi bizarre que ça puisse paraître, pardonnez-moi de vous couper, c'est la réalité. Nous avons, voyez, je vais vous dire autre chose, avec Caluire, qui est une ville accolée à Lyon, c'est à la banlieue, mais ça colle à Lyon. La mairie de Caluire et puis les dirigeants de ce club, de rugby à 13, ont, avec la fédération, donné naissance à un projet pour avoir une infrastructure de haut niveau, avec une capacité d'accueil d'un centre de formation, etc., etc. Les travaux devaient démarrer, là, début 2024. Et puis, encore une fois, des enjeux autres, notamment de budget, ont fait que la collectivité a reculé à 2026 de démarrage des travaux. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que nous sommes aussi confrontés à cette réalité économique dans un pays où le rugby à 13 ne pèse pas, comme d'autres fédérations peuvent peser pour décider, pour prioriser en ce qui concerne les décisions municipales, et bien les infrastructures pour le rugby à 13. C'est aussi ça notre réalité. Et donc il faut faire avec. Ça fait partie de ce que j'ai l'habitude d'appeler la nécessité de construction d'un cercle vertueux, qui est parfois local, mais qui est surtout national et pour lequel nous devons tous nous mettre d'accord et tous tirer dans le même sens. Ce qui n'est pas toujours évident dans notre vie après.
Mais est-ce bon, on ne va pas sans vouloir épiloguer sur ce dossier, il n'empêche que nous, ce qui nous paraît bizarre, c'est que ça tombe toujours sur le rugby à 13. Toulouse, par exemple, pourrait, s'il n'y avait pas eu cet accord signé avec le Stade toulousain, parce que du côté du Stade toulousain, il y a un président, M. Lacroix, très, très ouvert et très intelligent. Le Théo pourrait se retrouver sans stade, quoi. Donc voilà, c'est ce que ça nous paraît un peu bizarre. Alors, est-ce qu'il... Bon, après on peut dire que nous sommes
peut-être nous avons des nous pensons des choses qui ne sont pas, mais ça nous paraît bizarre que c'est toujours sur le rugby à 13 que ça tombe. Il n'y a pas de terrain, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de ceci ou il n'y a plus de cela, il n'y a plus de subventions, et que c'est toujours notre rugby qui est touché.
Et bien sûr, mais vous avez raison, c'est souvent le cas, mais il y a pour cela, vous avez pris l'exemple de Toulouse, et on va s'y arrêter deux minutes, c'est en trouvant des solutions, on va dire innovantes, presque parfois, alors j'allais dire contre nature, non, c'est pas contre nature, parce qu'il y a des gens intelligents partout, mais il n'est jamais facile de s'entendre avec nos amis du rugby à 15, en termes de partage d'espace, ou etc. Il faut qu'ils soient réellement gagnants, comme le sont les amis du stade d'ailleurs, hein, parce que ce sont les amis du stade toulousain qui sont propriétaires des 7 deniers, et qui ont bénéficié de la part de la mairie de Toulouse d'un gros investissement pour refaire la pelouse, et c'était la condition d'accès du Théo à cette installation. Je vous rappelle que le Théo, quand même, paye un loyer de 300 000 euros par an pour pouvoir occuper l'infrastructure du 7 denier. C'est pas rien. C'est pas rien. Il faut quand même avoir des budgets conséquents. Donc, c'est une alchimie particulière qui n'est pas fermée, mais qui est parfois difficile à pénétrer. Et chaque coin, chaque site a ses particularités. Il faut d'abord décoder. Puis ensuite, il faut installer une dynamique avec les collectivités pour enfin avancer. Nous nous y employons au quotidien. Ça ne va pas aussi vite que nous le souhaiterions, je vous le concède, mais nous y travaillons.
Oui, non, là, dans notre projet, moi, c'était pas la fédération, que ce soit avec vous ou avec vos prédécesseurs qui étaient visés, mais c'était le monde extérieur, parce que c'est vrai que, alors ça, c'est je ne le mettrai pas dans votre bouche, mais nos cousins ne sont pas toujours intelligents, quoi. Enfin, aussi, ils le sont, mais pas toujours dans le bon sens. Voilà, bon, donc...
il y a quelques réminiscences encore, hein, d'un temps passé où la guerre était ouverte. Bon, c'est de moins en moins quand même, hein, c'est de moins en moins. On arrive à travailler ensemble avec parfois des objectifs communs, et donc l'intelligence s'installe petit à petit. Voilà, ça ira mieux, plus on ira, mieux ça ira, on va dire ça.
D'accord. On va avancer, donc, on verra, donc, pour ça, on reviendra tout à l'heure un peu sur justement, l'élite, et donc, la professionnalisation du plus haut niveau, moi, je voudrais vous interroger, bon, et ça fait partir là, sur l'élite de l'élite du rugby français, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous étiez en Angleterre avec les Dragons samedi. Dimanche, il y avait le Théo, les deux clubs phares du rugby à 13 français disputaient une finale, ce qui était super, avec deux niveaux vraiment très différents, et malheureusement, les deux ont perdu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je ne sais pas si vous aviez pu rentrer pour être à Toulouse dimanche. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous donner là-dessus, votre vision de ce dimanche qui fait
bien sûr,
qui
fait terminer
un
sûr,
peu différentes difficultés.
Sûr. Oui, bien sûr, je vais vous donner mon sentiment. C'est un sentiment qui est d'ailleurs partagé. J'étais à Manchester, à Old Trafford, samedi, et à Toulouse, dimanche après-midi, puisque nous avons atterri à Perpignan à 3h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Bon. Finalement, on peut presque tirer le même constat de ces deux échecs. Moi j'étais vraiment très 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 heureux d'avoir les Dragons et le Toulouse Olympique en finale. Et lorsque j'ai déjeuné samedi midi le président de la RFL, de la Rugby Football League, son pronostic était de dire « Je vois bien les Dragons gagner aujourd'hui ». Et Londres s'imposait à Toulouse demain. Je lui dis, tu sais, Simon, moi je verrais bien, je vois bien les deux s'imposer si le rugby à 13 est au rendez-vous. C'est-à-dire si ce rugby que l'on aime, de mouvement, d'incertitude, est mis en œuvre. Or, concernant les dragons, la débauche d'énergie dont ont fait preuve les joueurs des dragons samedi après-midi n'a pas suffi à contrecarrer les plans de l'équipe de Wigan. La guerre, ce qu'ils appellent la guerre du milieu, qui est devenue un terme un peu, à mon avis, un peu trop significatif de la restriction du jeu rugby à 13 aujourd'hui. Ça doit être une partie du jeu, évidemment, une partie stratégique, mais ce jeu, presque à 80% ou 90%, fait de une passe et de défis physiques dans un sens et puis après dans l'autre, où on a un jeu au pied systématisé aux cinquièmes tenues en termes de chandelles dans les bras de l'arrière, etc., trouve maintenant une adaptation défensive tellement efficace que ça n'amène plus d'incertitude et de capacité à surprendre l'adversaire. La demi-finale contre Sainte-Hélène à Perpignan, qu'il n'y a pas l'exploit de Sam Tompkins à 2 minutes de la fin, on est sur un résultat identique, avec une même forme de jeu. Je prends l'exemple du Théo le lendemain, le dimanche. 30 minutes exceptionnelles du Théo, avec de la vitesse, avec du déplacement, avec du jeu sur la largeur, avec mais évidemment de l'alternance, avec du jeu au pied intelligent, etc. 14-2. À partir de là, plus de jeu, on est tombé encore une fois dans du jeu réduit au milieu du terrain, et le résultat, ben on le connaît. Voilà. Donc la déception pour moi, elle est dans notre incapacité aujourd'hui à jouer, à pratiquer un rugby à 13 de mouvement. Je veux donner une statistique qui concerne évidemment le très haut niveau, puisque je vais parler du rugby à 13 en NRL, en Australie, sur cette saison. On voit bien la transformation du jeu qu'il y a eu. L'an dernier, une moyenne par match, c'était 450 passes. Cette année, les équipes en Australie sont à 600 passes de moyenne. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience que ce jeu doit être toujours en évolution, toujours avec du mouvement, être capable de ramener dans l'incertitude. On ne peut pas se satisfaire d'une incertitude aujourd'hui qui réside dans le fait que le porteur de balle va ou pas renverser le défenseur. C'est pas possible. Donc nous avons entamé une réflexion, et c'est à ça que je voulais en venir tout à l'heure, quand je parlais du jeu. Nous avons entamé une réflexion avec les entraîneurs, d'élite 1 et d'élite 2, pour échanger à ce propos, pour avoir le point de vue des techniciens. Et la logique est que nous devons observer le très haut niveau, en tirer des conclusions en termes de marqueurs du très haut niveau, et aussi quand même de dire quelle est la particularité du sport français. Je suis persuadé que nous avons dans notre caractère, dans nos gènes, dans notre formation physiologique et physique, psychologique aussi, une capacité à pratiquer un rugby davantage axé sur le mouvement, sur la prise de risque, etc., tout en étant respectueux des marqueurs du très haut niveau. Donc, voilà, pour répondre à la question, je m'en suis un peu éloigné, pardonnez-moi, mais c'est ça qui donne corps à la déception ressentie après les deux défaites samedi et dimanche, alors que ces deux équipes ont fait dans la saison tout ce qu'il fallait pour amener le rugby à 13 français au plus haut niveau européen. Donc cette frustration,
président,
une réflexion collective.
Président, moi, je mets le doigt là où ça fait mal. Quand on regarde la composition des Dragons catalans et de Toulouse, il n'y a pas 13 ou 17 joueurs français pour constituer une équipe de France. Est-ce que le mal ne vient pas de là aussi? Et est-ce qu'il n'y a pas trop d'étrangers dans nos équipes françaises? Parce que là, si on compte les joueurs qui avaient sur le terrain du côté de Perpignan, de Toulouse, il n'y a pas de quoi faire une équipe de France.
Oui, alors il y a des joueurs français qui sont quand même dans ces effectifs, et il y en a qui jouent en Angleterre. Donc la constitution de l'équipe de France, quand on peut s'appuyer sur l'ensemble des joueurs professionnels, elle est quand même envisageable. Mais vous avez raison sur le fond. Sur le fond, nous n'avons pas une base de très haut niveau suffisante en termes de joueurs. Et donc, c'est quelle évolution doit-on ouvrir à notre championnat d'élite pour que cette base puisse s'élargir. La question est là, c'est la question fondamentale. Et donc, c'est la question de la professionnalisation de notre championnat. Quand je dis professionnalisation, ça ne veut pas dire... Je répondrai après à la question des étrangers, hein, parce que pour moi, l'arrivée des joueurs étrangers doivent servir à franchir un cap et non pas à compléter des effectifs. C'est ce qui est malheureusement aujourd'hui davantage la règle. On prend des joueurs, des bons joueurs, mais qui ne sont pas des joueurs extraordinaires, mais on prend des bons joueurs étrangers pour accroître son effectif et pas forcément pour franchir un cap. Donc ça, c'est aussi un problème. Mais franchir un cap, ça veut dire quoi? Je parlais de professionnalisation. La professionnalisation du rugby à 13, aujourd'hui, ça ne veut pas dire disposer en début de saison 2024-2025 de 25 joueurs sous contrat à disposition H24 de l'entraîneur. Ça ne veut pas dire ça, professionnaliser, parce que aujourd'hui, un club professionnel ne pourrait pas s'entendre avec un budget de fonctionnement inférieur à, au strict minimum 1,5 million d'euros, voire deux, ne pourrait pas s'entendre avec une remise à niveau des infrastructures sportives capables d'accueillir du public, des télévisions, etc. Nous avons d'abord, avant de penser à avoir un effectif sous la main 24 heures sur 24, à professionnaliser nos structures. J'ai demandé au club d'élite 1 d'avoir, à la fin de l'année 2023-2024, de la saison sportive 2023-2024, un entraîneur professionnel et un cadre administratif professionnel. Pourquoi? Parce que, avec ces deux personnes au club, qui travaillent au quotidien, qui travaillent à la structuration, d'une part, du club, et d'autre part, de la compétence sportive, nous aurons déjà une base pour la saison d'après, structurée en termes de fonctionnement administratif, commercial, marketing, communication, puis sur le sportif, avec de la pluriactivité étendue à toutes les équipes, et enfin la troisième année, une capacité, après avoir dialogué pendant ces 2-3 ans avec les collectivités, avec des agences de production et de diffusion, j'y reviendrai tout à l'heure, une offre d'un niveau bien supérieur à ce qu'elle est aujourd'hui, de façon à engager ensuite la professionnalisation. C'est cette méthode progressive qui va permettre d'élever le niveau du rugby à 13 et par là d'augmenter, d'élever la quantité de joueurs disponibles pour nos équipes de France. C'est cette méthode-là qui doit être mise en avant aujourd'hui. Alors, les clubs sont déjà sur cette perspective et sur cette marche en avant. Je vais parler du club de Carcassonne, qui travaille depuis déjà longtemps à cette structuration et qui est aux portes de la réalisation de cet objectif. Le club d'Albi travaille bien. Le club de Limoux travaille bien dans un des deux domaines, puisque ce sont les derniers champions de France. Il y a toute la qualité sportive nécessaire. Du point de vue des structures, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais on voit qu'il y a dans notre championnat une grande disparité entre les équipes, entre les clubs. Voilà, donc d'abord, il y a une mise à niveau indispensable et commune, progressive, des structures et des ce qu'on va appeler, entre guillemets, des personnels, qu'ils soient administratifs ou sportifs. Et puis après, in fine, quand tout ça est calé, eh bien, je pense qu'on aura des partenaires qui viendront et qui nous permettront d'avoir des budgets conséquents pour évoluer. Alors, cette réflexion, elle s'appuie sur un certain nombre d'expériences. J'ai regardé le handball. Le handball en 2004 est passé professionnel. Avant ça, ils avaient travaillé une équipe de France qui était moribonde au début des années 90, fin des années 80, début des années 90, puis qui petit à petit est passé du mondial C au mondial B, puis du mondial B au mondial A, et puis a fait des Jeux Olympiques et des médailles, puis des championnats du monde et des médailles. Et partant de là, avec cette vitrine, et puis le passage au handball professionnel avec des clubs qui, à ce moment-là, en 2004, c'était des clubs qui jouaient plus dans des gymnases que dans des arénas, qui avaient des budgets autour de 1 million d'euros, pas plus, qui faisaient entre 800 et 1000 spectateurs en moyenne, et qui avaient des joueurs qui étaient plutôt complètement amateurs, voire pluriactifs pour quelques-uns. Donc il y a une similitude des situations, et je crois très fermement, en tout cas j'y travaille, que nous avons à adopter une méthodologie identique pour arriver à sortir notre rugby à 13 de l'état dans lequel il est aujourd'hui. Et quand je dis dans l'état, et c'est pas un état déplorable, hein, parce que nous avons des clubs qui travaillent beaucoup, des dirigeants qui s'investissent au quotidien, des joueurs qui font des efforts de préparation physique. Mais nous avons à changer de braquet pour arriver à autre chose. Je pense que le rugby à 13 a pris beaucoup de retard, alors que nous avons eu dans notre histoire plusieurs fois l'occasion de professionnaliser. Nous ne l'avons pas fait pour des raisons que j'ignore, mais peut-être que si les présidents de l'époque étaient toujours en état de nous en parler, eh bien ça serait riche d'enseignements. Voilà, nous avons loupé, me semble-t-il, des virages et maintenant, nous n'avons plus le choix, parce que sinon, nous serions condamnés, eu égard à tous les sports nouveaux qui arrivent et dont les jeunes sont consommateurs. Et quand je dis consommateurs, c'est-à-dire qu'ils prennent et qu'ils laissent, hein, mais qui consomment en termes de plaisir, d'image, d'identification, etc. Voilà, le rugby à 13 a beaucoup à entreprendre pour arriver à ce niveau-là.
Monsieur Balou. Monsieur Balou, Monsieur le Président.
Oui.
Oui, vous arrivez à la présidence à un moment, que je trouve charnière, peut-être, où le rugby à 13 ne peut pas... Enfin, moi, il me semble que ce rugby à 13 doit prendre un virage, le rugby à 13 franco-français, on va dire, on va laisser de côté pour l'instant les Dragons catalans et Toulouse, qui, eux, ont déjà pris le virage, au moins pour les Dragons catalans... On peut penser que c'est un virage pour du long terme. Pour Toulouse, bon, c'est plus fragile. Mais pour vraiment l'élite franco-française dans notre championnat au quotidien, est-ce que... Bon, je comprends, je sais que c'est difficile, et je comprends votre démarche de dire on va y aller progressivement, on commence par structurer, par un entraîneur. Bon, tous les clubs, vous le dites, je partage, ne sont pas au même niveau. Mais, justement, est-ce qu'il n'y a pas des clubs aujourd'hui, ces clubs dont vous dites qu'ils sont en avance, qu'ils ont déjà fait des efforts, etc., qui sont soumis à forte concurrence et qui risquent, si la phase pour arriver à une professionnalisation en termes de sportifs, de joueurs, enfin une professionnalisation, ne rêvons pas, on ne va pas parler, une marche vers la professionnalisation sportive de notre élite, si elle n'a pas lieu rapidement, est-ce qu'il n'y a pas de risque de voir certains de ces clubs plonger à leur tour, parce qu'ils font des efforts, ils ont des partenaires qui sont là, qui soutiennent, etc. Je pense au club de Carcassonne, mais il y a Albi, comme vous avez dit, il y en a d'autres. Il y a Avignon aussi, bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné que ces clubs-là, eh bien d'ailleurs les tribunes se vident de plus en plus, etc., à un moment donné, soit dans l'obligation de lâcher l'affaire, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'il ne faut pas, justement, est-ce que vous n'arrivez pas à un moment où, je dirais malheureusement, peut-être pour vous, Président, mais il faut accélérer les choses?
Alors, vous avez bien évidemment raison de mettre le doigt sur cette particularité qui est comment les clubs qui sont plutôt en avance par rapport à d'autres vont-ils pouvoir profiter de leur travail sans risque de se désagréger faute d'aboutir. Bon, j'ai eu cet été les dirigeants du club de Carcassonne plusieurs fois au téléphone, et puis on s'est rencontrés quand Toulouse Olympique est venu jouer contre Swinton à Carcassonne, et à ce moment-là, il était question, notamment avec le président Kamel, d'une candidature de Carcassonne en championship, ou tout au moins à pouvoir s'engager dans la Cup pour amener des affiches, des confrontations d'un autre niveau et maintenir cette appétence locale pour l'accès de Carcassonne au monde professionnel. Bon, la réponse, j'ai fait des démarches tout à fait officielles auprès de nos amis anglais. La réponse a été immédiatement négative, pour deux raisons. La première, c'est de dire, nous ne pouvons pas imposer à nos clubs, je parle des Anglais, hein, la réponse de Tony Sutton, le chef exécutif de la RFL, a été de dire, nous ne souhaitons pas imposer à nos clubs une charge budgétaire supplémentaire pour se déplacer en France. Et nous ne souhaitons pas non plus, deuxième raison, imposer aux clubs français, comme nous avons dû le faire au Toulouse Olympique depuis plusieurs années, de prendre en charge les déplacements des clubs anglais. Bon, donc, porte fermée de ce point de vue. Donc, il a fallu réagir à cela. Et donc, j'ai provoqué deux réunions officielles depuis pour envisager un avenir immédiat, quasi immédiat, à horizon 2024-2025, donc c'est très proche, hein, pour une compétition qui serait commune à la Championship et à l'Elite 1, et qui pourrait à terme qualifier le vainqueur de cette compétition à la Super League. Pourquoi je travaille dans ce sens? Parce que aujourd'hui, la Super League et la Championship, qui est le deuxième niveau, hein, sont indépendantes des fédérations. Elles sont gérées par un conseil d'administration qui est représenté par les clubs qui y participent, et puis par IMG, et puis évidemment par un représentant de la fédération. Bon. Les Dragons catalans, le Toulouse Olympique, ne sont pas des clubs de la Fédération française de rugby à 13. Ils sont détachés puisqu'ils appartiennent à cette ligue, à ce championship. Aujourd'hui, se bagarrer, parce qu'il faudrait se bagarrer réellement, pour qu'un club comme Carcassonne intègre la championship, voudrait dire se bagarrer pour que Carcassonne quitte la Fédération. Ça n'est pas possible. Donc il faut président, se bagarrer pour que, par contre, s'il vous plaît, Carcassonne accède à un niveau de compétition identique. Ça, c'est pas la même chose. Et donc, le modèle vers lequel nous souhaitons aller, c'est que, par exemple, les quatre premiers, alors ça peut être les trois, hein, dans un premier temps, mais globalement, dans l'idéal, les quatre premiers de chaque championnat puissent se rencontrer sur une phase intermédiaire, en ne rencontrant pas les clubs qu'ils ont rencontrés dans l'année régulière, par exemple, si les premiers sont Carcassonne, Lézignan, Albi, Limoux, peu importe qui, ils ne se rencontreraient pas dans cette deuxième phase, ils rencontreraient que les quatre clubs anglais en aller-retour. Voilà, ça serait une compétition intermédiaire, parce que le niveau des clubs français n'est pas très éloigné du niveau des clubs de championship. Sur la deuxième partie du tableau, on est largement au niveau. Après, il y a sans doute un débat sur les clubs qui sont structurés pour accéder à la Super League, mais jusque-là, nos clubs feront largement concurrence à ces clubs-là. Donc, l'éliteur...
Président, Oui.
S'il vous plaît. Moi, j'ai du mal à croire que ces clubs de Super League en Angleterre, qui sont professionnels, ont du mal à venir en France financièrement. Alors, ils viennent emporter ces clubs peut-être deux fois en France. Alors que vous prenez Toulouse, chaque match en Angleterre, c'est eux qui payent. Toulouse, qui est un club professionnel avec des petits niveaux, vous trouve essentiel, mais quand même, en Angleterre, quand même, le rugby 13 est bien professionnel, bien plus que le 13 français. Et j'ai du mal à croire qu'ils ont des difficultés pour venir en France, difficultés financières. J'ai du mal à le comprendre, ça.
Ben, détrompez-vous, hein, les budgets ne sont pas si élevés que ça. Hein. En championship, en tout cas, c'est pas si élevé que ça. Et les clubs, je ne parle pas encore une fois, des clubs qui jouent l'accession à la Super League, mais les budgets moyens sont autour de 4, 5 millions, 6 millions d'euros, guère plus. Et en Super League, il faut, on en ajoute 2 ou 3, mais guère plus non plus. Donc c'est pas Toulouse, ce qui les handicape depuis qu'ils sont en championship, c'est qu'ils doivent non seulement payer leurs déplacements systématiquement quand ils vont en Angleterre, mais ils paient aussi celui des Anglais quand ils viennent jouer en France. Donc ça les handicape d'un point de vue du budget. Si on arrive à lisser ça et à changer cette règle-là, ben, Toulouse va avoir des capacités, avoir une équipe bien plus performante que celle qu'il a aujourd'hui. Ça, c'est aussi une des données des choses. Est-ce que vous pensez honnêtement que Carcassonne, pour parler du même club, va être capable, s'ils ont l'autorisation d'aller en championship en 2024-2025, d'avoir un budget à 4 millions d'euros, par exemple, alors qu'ils ne sont pas tout à fait au million ou ils sont au million cette année? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc il faut imaginer une voie progressive qui leur permette de construire ces budgets pour à terme pouvoir y accéder. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il ne faut pas le faire que pour Carcassonne, sinon ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir le faire en embarquant, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins 4 équipes de ce championnat, les autres continuant à se structurer. Mais dans le championnat régulier, il faut que ces 4 équipes ne décrochent pas de l'élite. Sinon, on effondre toute notre architecture domestique. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à réaliser, une alchimie compliquée, mais il nous semble, et on est d'accord là-dessus avec les Anglais, il nous semble qu'une compétition française revalorisée, évidemment, avec un intérêt là aussi, certainement, de partenaires extérieurs comme IMG.
Président.
Oui. Oui, je vous écoute.
Excusez-moi de vous interrompre, mais bon,
retourne.
Il n'y a pas que le. Je dirais que c'est pour. Ah, parce que j'ai. Bon, on parle de Carcassonne, mais vu que le président, un ancien joueur des Dragons d'Avignon également, parlait également d'aller vers l'Angleterre à une échéance peut-être moins. Plus lointaine que les dirigeants carcassonnais. Mais moi, je crois que ces clubs, est-ce que vous ne pensez pas que ce soit Carcassonne, Avignon ou d'autres, eh bien, ils essayent de chercher une solution à l'Angleterre.
Non, mais évidemment,
c'est sûr, oui. Ils ne voient pas de solution en France. Et quand on voit, alors attendez, vous venez d'arriver, ne vous sentez pas visé parce que vous venez d'arriver à la présidence. Il est évident que quand vous nous dites qu'on n'arrive pas à monter un club à Lyon, etc., etc., qu'on voit que Montpellier aussi a rendu l'âme pratiquement, et que les stades se vident et qu'on a un championnat qui sportivement, tous les dimanches, ben, montre les joueurs et les techniciens font un travail remarquable, les dirigeants des clubs, etc. Et bon, ils sentent qu'il n'y a pas de souci. Si on n'arrive pas, si vous n'arrivez pas, vous, la fédération, à mettre en place, assez rapidement, j'ai entendu un peu vos solutions, vos préconisations, mais quelque chose qui arrive assez vite pour ces clubs, pour qu'ils ne cherchent pas justement de solution nécessairement vers la Super League, parce que c'est pas nécessairement, vous n'avez pas tort, la bonne solution non plus. Quoi.
Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en place comme situation, si ce n'est. Est-ce que vous voulez comparer aujourd'hui le club d'Avignon et le club de Carcassonne? Vous voulez comparer ces deux clubs qui ont la même intention? Ils sont absolument incomparables. Incomparables. Les structures de Carcassonne sont dignes d'un plus haut niveau. Les structures d'Avignon, elles sont pour le moment inexistantes pour accéder à ce haut niveau. C'est juste inimaginable. Et l'intérêt de la fédération, et nous sommes là pour ça, c'est d'accompagner les clubs vers une amélioration de leur structure pour pouvoir accéder à un plus haut niveau. C'est juste ça notre sujet. Pourquoi vous me parlez de Montpellier? Pourquoi il n'y a plus de rugby à 13 à Montpellier? Juste parce qu'il n'y a plus de dirigeants. Pourquoi il n'y en a pas à Marseille alors que on a une association qui s'appelle Point Sud, qui touche à peu près 400 gamins par semaine dans les écoles, etc., et qu'il n'y a personne pour les accueillir, parce qu'il y a un club qui manque de dirigeants. C'est ça le problème du rugby à 13. Cette paupérisation.
Président, oui. Président, l'heure tourne. Nous arrivons au terme de notre émission. Oui. Alors, rapidement, au niveau médias, télévision, où en sommes-nous? Rapidement, s'il vous plaît.
Alors, très rapidement, nous avons contractualisé là trois événements qui vont être télévisés. France Galles féminine du 29 octobre à Carcassonne, plus un match de championnat un vendredi soir à 20h30, Saint-Gaudens-Lézignan, plus un match fauteuil international, France-Angleterre à Marseille au Palais des Sports le 25 novembre.
C'est sur quelle chaîne là,
alors, je vais
sur quelle chaîne
trois, oui, j'y viens. Ces trois événements-là vont nous permettre de mesurer des taux d'audience. La société de production avec laquelle nous avons établi ce contrat diffuse via les box des fournisseurs d'accès. Les signaux qui seront, c'est-à-dire la télé d'Orange, Free, Bouygues, etc., sur les canaux qui sont accessibles par les box. Mais nous aurons là aussi la possibilité, comme ce fut le cas par le passé, de diffuser sur via Occitanie, Sport en France, etc. Et pour entrevoir autre chose, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons signé avec une société parisienne qui est notre désormais qui s'appelle Smart Group, qui est désormais notre régie de commercialisation et notre développement, notre développeur média, qui sont chargés donc de négocier avec des chaînes à plus grande diffusion, des reprises de signaux. Donc ce cercle vertueux là, c'est que si nous avons des audiences correctes à ces heures-là, nous lancerons la diffusion d'un match par journée de championnat, qui sera précédé d'un magazine, puis d'une reprise des meilleurs moments dans la semaine, avec une fois par quinzaine, un magazine dédié au rugby à 13. Ça sur des chaînes accessibles, puisque aujourd'hui tout le monde a au moins une box de ses fournisseurs d'accès. Donc ce développement-là, imaginons que France Télévisions, par les chaînes régionales, reprenne maintenant plus régulièrement des signaux de majorité à 13 quand ils sont significatifs d'un territoire, par exemple, ou autre chose, eh bien c'est le pari que nous faisons pour aider le rugby à 13 à retrouver de la visibilité.
Président. Bon, là, on est obligé de terminer l'émission parce qu'on a le programme du week-end donné. Ce que je vous propose, c'est dans un proche avenir de vous retrouver sur les antennes, sur l'antenne, sur les 101.3 de Radio Marseillaise, dans cette FM.com, pour avoir une deuxième heure consacrée au rugby à 13, si vous êtes d'accord. On va calculer une date et pour reprendre peut-être en détail le projet de la Fédé et au niveau télévisuel et tout, de manière à ce qu'on ait un peu plus de temps pour parler. Parce que vous êtes comme M. Lacoste, vous parlez beaucoup, mais c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors je vous propose, si vous êtes d'accord, de nous retrouver dans quelques semaines pour un deuxième 13 passions consacré à la Fédération de rugby à 13. Est-ce que ça vous va?
Oui, avec plaisir. Voilà. Je suis sans doute bavard, mais une heure...
Non, mais c'est très intéressant.
Pour chacun des thèmes, donc c'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué.
Et je le sais. je le sais. Bon, Président, moi, je...
L'heure passe vite, c'est vrai que...
Ça passe
très vite. L'heure passe très vite, hein.
Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à la question. Je vous recontacterai très prochainement pour une deuxième heure consacrée au rugby à 13 français. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Président. À très, très, très bientôt.
Je vous remercie,
Monsieur Balou.
Je vous remercie et je suis à votre disposition. Au revoir.
C'était gentil. Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Allez, Denis, vite fait le programme de ce week-end. Je rappelle que, juste une petite annonce, Villeray-Aragon est à la recherche de jeunes éducateurs pour son école de rugby, l'école de Marcassène du Cabardès. Alors si vous êtes intéressé de vous occuper un petit peu des jeunes, n'hésitez pas à contacter Villeray-Aragon 13 dans le petit journal. Vous trouverez le numéro de téléphone, on vous indiquera comment ça va se faire. Voilà, et je vous rappelle que dimanche, vous pourrez gagner 10 plaques de 3 cartons pour le loto Villeray-Aragon du 4 novembre. Denis.
Alors, le week-end Elite 1, avec, dans tous les cas pour les clubs audois, va se dérouler principalement demain samedi, puisque à 17h, Limoux sera en Avignon, au Parc des Sports d'Avignon. À 18h, Carcassonne sera à Saint-Gaudens. Et également à 18h, Lézignan sera à Albi. Bon, c'est un peu dommage que sur le même week-end, il y a des week-ends où il y a 3 matchs, et là, les trois matchs sont à l'extérieur. Bon, mais ça, on n'a pas eu le temps d'en parler avec le président, et puis c'était peut-être pas son niveau. Donc, vous pourrez suivre en direct, demain, à partir de 18h, le déplacement de Carcassonne à Saint-Gaudens, en intégralité, en direct. Donc, et en même temps, vous aurez l'évolution du score de Lézignan, qui se déplacera, qui lui sera à Albi. Bon, et nous espérons avoir le score final d'Avignon-Limoux, voilà, donc pour les trois clubs au doigt d'Elite 1, et puis le Val en Elite 2 est exempt, donc ils jouent contre exempt, donc ils vont gagner, Roger.
Ils vont gagner, voilà. Voilà, l'émission se termine, on va remercier encore le président de la Fédération, Dominique Balou. Bon, il était... prolifique en parole, mais c'est très bien. Bon,
il a abordé des sujets, ce qui
est ah oui, très important. Et on va se retrouver très prochainement pour faire la deuxième émission concernant le rugby à 13. Vous voyez, Radio Marseillaise est la seule radio en France qui vous parle comme ça du rugby à 13. Merci Eliane.
Merci, avec plaisir.
Merci auditeur. À demain.
Demain 18h. Ciao, ciao.
Au revoir. 18h. Au revoir. Ciao, ciao.